vuole tutto ciò. Lei è il problema, il papà vuole ciò, il papà vuole me, dans la perspective d'Aristote. Donc la perfection, là, c'est la perfection de l'être. C'est l'être qui va être dans cet état de plénitude, l'être. Et reprenez la vision parménide, parce que ça quand même, c'est toujours la vision parménide sous-jacente quand on parle de l'être. Dans la vision parménide, l'être est déconçu comme l'être plein, la plénitude de l'être. Et vous avez dit, c'est pour ça que vous avez la figure sphérique de l'être. Or, Parménide ne nous donne pas d'analyse. Nous n'avons pas l'intuition de l'être, nous n'avons pas une révélation de l'être. Il faut le découvrir. Alors pour le découvrir, on comprend très bien qu'il faut prendre l'aspect source de l'être, la substance, et l'aspect ultime de l'être, là. Et ces deux aspects, et on pourrait dire l'alpha et l'oméga terre, si vous voulez, non, l'alpha et l'oméga terre, c'est encore un aspect thématique. Mais c'est pour vous aider à comprendre. L'alpha de l'oméga de l'être, c'est vraiment le point de vue de la substance et le point de vue de la santé. C'est le point de vue de l'acte. L'acte, c'est justement ce qu'elle dit par l'être et dans cet état de perfection. Donc, Aristote dit ceci, c'est important d'introduire cela de cette manière pour bien nous montrer que nous sommes en phase de la découverte d'un principe. Que l'intuition nous aide à se dire, parce qu'on ne peut jamais dire en partie propre, on doit l'intuition. Ceci deviendra évident au moyen d'une induction à partir des cas particuliers. Il ne faut pas chercher à tout définir, ce qui est intéressant, on ne peut pas donner de définition de l'art, comme on ne peut pas donner de définition de la substance. On peut donner une définition logique de la substance, mais pas négative, mais pas de la substance négative. Parce qu'on ne peut pas définir un principe. Un principe, ça se saisit ou ça se saisit pas. Donc, où on le saisit avec une certaine évidence, ça ne veut pas dire que ce soit clair, faisons attention. Les principes, c'est pas toujours saisi à toute clarté, non? Ça c'est le cas, je dirai, mais évidemment, je vais vous dire, clarté, la recherche, je vais vous dire ça. C'est évident, ça s'impose à l'intelligence. Mais c'est pas saisi, évidemment, de clarté. C'est saisi d'une manière qui reste confuse, parce que c'est toujours saisi d'une manière analogique. Tous les principes sont saisis d'une manière analogique. Donc, il y a toujours quelque chose qui, pour nous, reste obscur. C'est pour ça qu'on peut pénétrer toujours plus avant. Donc il ne faut pas chercher à tout définir. Donc c'est très significatif qu'Aristote précise, avant de dire le qui est de l'acte, qu'on ne peut pas définir l'acte. Mais il faut savoir saisir l'analogue dans une vue philosophique. Donc je vous ai déjà remarqué que ce texte est très important parce qu'il nous montre, il nous avertit ce comment nous pouvons saisir l'acte et ce qu'il faut de fait accepter que nous restons dans une certaine connaissance analytique. Je voulais dire l'analogue dans une vie philosophique. Donc ça restera nécessairement quelque chose de concret. Mais l'esprit, il se dit à travers une induction. Donc nous sommes en face d'une induction philosophique, synthétique. Ce n'est pas une seule, c'est plusieurs. Alors c'est très curieux qu'Aristote prend ici cinq aspects de cette induction. Je crois que ce n'est pas le hasard. Je crois que c'est un que pour lui, c'est très nettement. Ce qu'il y a de tout à fait caractéristique est phénoménologique. Il est conscient que lorsqu'il regarde le point de vue de l'acte, il découvre quelque chose qui est le grand de sa philosophie. Quand il découvrait la substance, il savait très bien que Platon l'avait découvert avant, n'est-ce pas, par exemple, à Réunion. Ce qu'il fait, c'est de préciser par rapport à Platon une position toute nouvelle. C'est peut-être pour ça que la méthode du livre Zeta n'est pas du tout la même méthode que le livre Theta. C'est parce que d'un côté, on avait déjà parlé avant lui de la substance. Et donc, il fallait se préciser le qui est qui de la substance. On a fait des conclusions. En parlant de la substance, on a fait des conclusions. Donc, il s'agit de trouver des conclusions. Donc, cette méthode négative du livre Theta pour montrer ce que c'est que la substance. Ici, au contraire, il sait très bien qu'avant lui, on n'a pas donné la négative de l'acte. Autrement dit, qu'on n'a pas montré l'acte comme fin de l'être. Il le dit au début de la métaphysique, je crois qu'il est le premier à découvrir ce que c'est la finalité. Et que, donc, s'il est le premier à définir la finalité, il est le premier à définir ce qu'en revenant cette métaphysique de là. Par le fait même, il n'a pas besoin de montrer les conclusions qu'on n'a pas dit. Il doit, au contraire, montrer la découverte, d'où l'insistance sur comment pouvons-nous découvrir. Il n'avait pas fait ça du tout pour la finalité. Il le fait ici parce que nous ne sommes pas une induction qui va nous faire découvrir ce que c'est que l'art. Et donc, il y a cette conscience, je crois, très nette ici, que nous sommes en bas d'un sommet de sa philosophie. Il est télos par rapport à l'être, et que la métaphysique est l'étude de l'être sans être, mais l'étapant est un sommet. On ne peut pas aller au-delà. Il n'y aura rien au-delà de là. Au plan proprement de l'analyse philosophique. Vous voyez, quand Aristote étudiera la substance séparée au livre lambda, d'une certaine manière, c'est une application. C'est un cours. Vous voyez, une manière d'écouter. Mais ce n'est pas, au point de vue, un sommet nouveau, au point de vue de l'analyse. C'est ça qu'il faut bien préciser. Il n'y a pas une nouvelle précision dans l'ordre de l'être. Ce n'est pas parce que je regarde la manière d'écouter la substance séparée que j'aurai une nouvelle précision au point de vue de l'être. Toute la précision que j'ai au point de vue de l'être me permet de dire quelque chose d'exact de la substance séparée de la substance première. Donc c'est vraiment un pour, c'est vraiment un comment. Tandis qu'au contraire, ici, pour lui, le point de vue de la précision qu'on va avoir pour saisir ce que c'est que l'acte nous donne un approfondissement dans l'ordre de l'être. C'est l'intelligence qui va préciser davantage. C'est le livre simple intellectuel qui va préciser, qui va aller jusqu'au bout. Et qu'on va saisir, c'est l'homme. Ce qui s'est fait. Alors voici la manière dont il présente cette induction. Alors il faut la penser, pas Aristote la présente, il nous la communique, il faut la penser. Il faut la penser à travers ce qui nous dit. Voir ce que l'être qui bâtit est à celui qui peut bâtir. Vous voyez le rapport, hein? C'est une succession de rapports qu'Aristote nous donne. C'est vraiment ça. Ce qui est très, très difficile à saisir, c'est justement de rassembler dans une vue cinétique, dans une vue synthétique, l'analogue. C'est-à-dire l'analogue à travers ces différents rapports. Vous voyez? Donc l'analogie, telle qu'Aristote a conscience. C'est-à-dire l'analogie, c'est une proportion, au sens fort. C'est une proportion, ce sont deux rapports où il y a une similitude, une unité. Il y a une unité à travers ces différents rapports. Et c'est cette unité à l'intérieur de ces rapports qui est l'analogue. Les rapports expriment l'analogue. Et l'analogue doit être saisi au-delà, il n'est pas dit. C'est une intelligence qui. Alors, ce qu'est l'être qui bâtit à celui qui veut bâtir, nous avons tous des étudiants de ça, hein? Nous avons tous bâti un mur, donc on va voir ce que c'est. Montrer ce que ça représente. L'être éveillé à celui qui dort. L'expérience est encore plus sympa. Donc l'être éveillé à celui qui dort. Vous voyez bien le passage entre les deux. Il y a un rapport. Le rapport est semblable à l'être qui bâtit et à celui qui peut bâtir. Donc celui qui peut bâtir, il dort comparativement à celui qui bâtit. L'être qui voit à celui qui a les yeux fermés tout en protégeant. Donc celui qui a les yeux fermés tout en passant dans la vue, il est tout proche de voir, il a les yeux fermés. Alors, il est tout proche, mais il ne voit pas. Il y a un obstacle qui l'empêche de voir. L'être qui voit. Celui qui est séparé de la matière à la matière. Vous voyez, c'est beaucoup, le rapport est beaucoup plus subtil. C'est très important de voir les rapports différents qu'il y a eu. C'est pas du tout les mêmes rapports, on ne prend pas tout du côté de l'action. Si vous prenez tout du côté de l'action, c'est vrai, ça va bien. On ne saisirait pas l'être. C'est l'ordre de l'opération. Alors c'est pour ça qu'il montre bien qu'il y a parmi ces rapports un rapport qui va beaucoup plus loin, ce qui est séparé de la matière à la matière. Ce qui est séparé de la matière à la matière. La forme est séparée de la matière à la matière. La substance, selon l'endos, est séparée de la matière à la matière. Ce qui est élaboré à ce qui ne l'est pas. Donc ce qui est achevé, ce qui est terminé à ce qui ne l'est pas. Alors, vous voyez, les différentes relations, les différents rapports, il y a quelque chose de semblable. Il y a quelque chose qui, là, est déterminé par l'une des parties de l'opposition, le possible par l'autre. Alors, vous voyez, là et le possible n'est pas lui, c'est la valeur. C'est ce qui permet de comprendre la similitude de ces différents rapports. Si je ne saisis pas ce que c'est que l'acte, l'être en acte, je ne saisis pas comment je peux faire la similitude de ces différents rapports. Donc ces différents rapports me manifestent le quelque chose qui ne se dit pas, qui est sous-jacent à tous ces rapports, et que j'exprime en dernier lieu à travers cette addiction. Et j'induis par le fait même un principe qui me fait comprendre comment ces différents rapports ont cette similitude, ont cette unité. Donc, l'acte énergétique, c'est déterminé par l'une des parties de l'opposition. Donc, l'acte, c'est ce qui est exprimé par l'être qui bâtit, l'être qui est délégué, l'être qui voit, l'être qui est séparé de la terre, l'être qui est la mort. Voilà l'acte. Mais, la similitude entre ces différents aspects. Et qui permet en même temps de voir le lien avec l'autre, le collectif. Et il a le collectif, en tout cas, si vous voulez. Donc là, nous ne parlons pas vraiment de cette crise indécise qui l'offre. À travers ces différents rapports, réunis entre eux, je saisis là. Évidemment, vous dites bien, je pourrais saisir là tout de suite. Simplement, une fois que je saisis, je saisis tout de suite dans le simple rapport que je dis. L'être qui bâtit a ses limites. Il peut bâtir. Là, c'est présent. Là. Mais pour décanter l'acte de ces diverses modalités, je prends exprès diverses modalités pour que je ne m'arrête pas ces modalités. Et c'est là où le principe peut être alors dépouillé de sa modalité particulière. Ordinairement, pourquoi nous ne saisissons pas le point de vue de l'acte d'habitant? Pourquoi nous restons à un niveau mode particulier de l'acte habitant, que je crois que tous nous concevons bien les différentes modalités de l'acte. Nous arrivons assez facilement à le dire. La difficulté, c'est de saisir au plan métaphysique ce qu'est là, comme racine. Je veux dire, comme modalité, ça va bien. La modalité de ce que l'être qui bâtit est à celui qui peut bâtir. Je peux très bien saisir ça. À ce moment-là, est-ce que je suis là uniquement quand je vois ça? Non. Je veux dire deux modalités. Une modalité parfaite, une modalité imparfaite. Vous avez dit c'est une modalité parfaite, une modalité parfaite au niveau d'opération. Alors, comment arriver à secouer ce qui est tellement lié, l'acte et sa modalité? La seule manière pour moi, les hommes habitués, séparer le point de vue du principe de la modalité concrète dans laquelle je dors. Aller au-delà de la modalité concrète pour saisir le principe. Parce que mon expérience me met uniquement devant une modalité concrète. Alors, comment arriver à cette abstraction qui est l'abstraction la plus forte qui soit au plan métaphysique, arriver à séparer, à distinguer le mode concret du principe. Vous voyez, lorsqu'il s'agit de la substance, l'induction se présentait tout à fait différemment. Tout à fait différemment. C'était à partir de l'esprit, saisir le principe. Ici, c'est à partir d'un mode, concret, c'est tout le principe. Et donc, le principe est beaucoup plus délicat parce que le mode et le principe sont beaucoup plus liés, sont beaucoup plus intimement liés. Tandis qu'au contraire, l'effet et le principe sont plus facile à définir. L'effet est une conséquence de la substance. À partir de l'unité, je remonte à la substance. L'induction, si vous vous souvenez bien, de l'étudiant. Tandis qu'au contraire, ici, c'est à partir d'un mode concret que j'expérimente deux états, l'état d'une réalité parfaite à l'égard d'une réalité parfaite, j'expérimente cette modalité concrète et je veux saisir au-delà de cette modalité concrète le principe, la fin, l'acte et l'état d'interprétation de la substance. Et c'est pour ça que je suis obligé de mettre en parallèle ces différentes expériences. Et autant possible des expériences qui sont les plus opposées les unes des autres, pour pouvoir mieux détenter, c'est-à-dire pour pouvoir mieux distinguer le mode du principe. Je crois que c'est ça qui prend des idées, qui prend la peur. C'est ça qui prend des idées, qui des êtres intelligents. Il a mis tout simplement, il y a une induction synthétique, cette induction synthétique va se dire sur ce lance-là. Là, c'est déterminé par l'une des parties que vous avez, et le principe par l'autre. Donc là, c'est pilote au niveau de l'être. Il ajoute, après avoir fait cet effort injustice de découverte de ce que c'est que l'acte au point de vue de l'être et le possible au point de vue de l'être, tout n'est pas dit également en acte. Donc dès qu'il fait immédiatement, la découverte de l'acte de la puissance, il revient sur les modalités. Parce que je crois que notre intelligence au niveau métaphysique, a une peine énorme de rester dans la physique de l'art. Ce manifeste d'instantané. Le DSI de l'art, c'est très différent de la substance. La substance a quelque chose de fondamental. On peut s'arrêter à la substance. Parce que la substance est dans la ligne de la forme. Et la forme, c'est toujours quelque chose qui détermine notre intelligence. Tandis que l'art, lui, n'est pas dans la ligne de la forme. Il est dans ce qui achève, ce qui termine, ce qui ultime. Donc, d'une certaine manière, on ne peut pas s'arrêter. Et c'est pour ça qu'immédiatement après, on revient sur les modalités. On trouve des modalités pour être venu immédiatement. Parce que le moment où l'intelligence saisit l'art, je crois que c'est comme, vraiment comme un éclair. C'est quelque chose de très rapide. On suit. Et immédiatement, nous tombons. Ça, c'est la connaissance de l'esprit. Ça, c'est pas technique. C'est l'intelligence qui, dans ce qu'elle a de plus profond, essaie d'atteindre l'être dans ce qu'il a vu. Et alors, en saisissant, elle se révèle à elle-même. C'est parce que chaque fois que l'intelligence découvre plus profondément l'être, l'intelligence se découvre elle-même. Voyez, l'intelligence se découvre comme capable de saisir l'art. Donc, elle est en parenté avec l'art. Et si l'intelligence est en parenté avec l'art, l'intelligence peut se découvrir comme séparée. Puisque le propre de l'art, c'est de séparer. Alors, l'intelligence découvrant l'art se découvre comme une intelligence séparée. Aristote avait déjà dit à propos du dialogue, en montrant l'intelligence que l'intellect peut être séparé. Eh bien, c'est dans la découverte de l'art que l'intellect peut se découvrir comme séparé. Alors, il ajoute ceci, un autre béni, si vous voulez, après cette tension profonde de découverte de l'art, tout n'est pas vu également en art, mais d'une manière analogique. Comme ceci est dans cela, comme ceci est dans ceci, et vers ceci. Alors ceci vous donne une densité très grande. On pourrait réfléchir longuement, c'est très curieux comme manière d'exprimer ce que vous. Il y a le M qui tout. Donc, oh, il y a d'abord le comme ceci, le tout autre, et en ceci. Comme s'il y avait deux manières de voir la situation. La situation, c'est l'acte, d'après les gens qui vont penser, c'est l'acte qui est dans la distance. C'est l'acte qui est vers la distance. Et si le contexte est un très difficile. Or, c'est un texte très très difficile. Il est très important. Il y a une subtilité assez particulière. Alors, si Aristote est subtil, il y a des lieux particulièrement subtils. Alors, voyez bien, je reprends. Tout n'est pas dit également en art, mais d'une manière analogique. Comme ceci est dans cela, ou vers cela. Donc, ceci est dans vers, de manière. Première chose. Ainsi, cela est dans cela, et vers cela. Donc, on est deux aspects, si vous voulez, ceci, comme ceci, et ainsi. Donc, il y a le rapport qui se retrouve. Et vous avez un rapport double qui est repris de l'autre côté. Parce que toujours là se saisit dans les relations. Ils se saisissent toujours analogiquement. Et alors, on est ici comme une bifurcation pour bien comprendre que là ne se dit pas toujours de la même manière. Il faut donc faire grande attention, parce que l'acte ne se dit pas toujours de la même manière, c'est qu'il se dit analogiquement. On a comme une espèce d'analogie au carré, si vous voulez, pas, parce qu'il y a deux manières de le voir, elle prend. Je continue. Certains êtres, c'est là la citation, je ne peux pas vous donner le principe d'une façon tout à fait générale, en disant elle prend. Et ceci de deux manières différentes. Ceci, cela. Tu vois, il y a le tout autre, et puis le point de vue de. Causé. Il y a le causé, le sous-tout et le causé. Donc ceci, cela. Alors on voit ceci par rapport à ceci, vers ceci, cela par rapport à cela et vers cela. Certains êtres sont comme le mouvement vers la distance. Voilà la situation. Certains êtres sont comme le mouvement, donc comme le mouvement, c'est ici le mouvement, vers la distance. Vous-même. pas. Et là, c'est le mouvement. Alors là, c'est le mouvement, il est vers la puissance. Oui, c'est celui qui est propre. Et pour l'inverse, hein, ça va dire qu'il y a pour l'inverse, donc la puissance est là. C'est ça qui est très curieux. Que lui, ça va dire, tu as dit, évidemment, la puissance est ordonnée à Paris. Ici, nous ne regardons pas l'ordre génétique. Dans l'ordre génétique, disons, la puissance est ordonnée à l'art. Ici, nous essayons de comprendre ce que représente le point de vue de l'art et de la puissance, et le rapport qui existe entre l'art et la puissance. Et alors, nous ne regardons plus l'acte génétique, mais nous regardons quelque chose de différent. Nous disons que l'art est propre, propre vers, relatif à la puissance qui est propre. Donc ça c'est le premier, le mouvement. Donc, comme l'assistance est proximaire. Alors on s'attendait, vous voyez, ça c'est difficile, on s'attendait à ce qu'Aristote est un deux exemples différents, le M et le prof. Ici le distingué, ici dans l'exemple, le prof est défini. Alors, voyez le mouvement. J'espère que vous voyez au même problème. Je reprends. C'est important, c'est intéressant au point de vue de la connaissance. C'est un homme, je vous dis, c'est très difficile. Si vous ne saisissez pas avec clarté, tant mieux. Parce que vous me voyez aussi une clarté, parce que les autres, vous n'auriez rien compris. Alors, vous saisissez pas clair, c'est une recherche de l'intelligence, la première recherche de l'art et de l'art. Et vous voyez, c'est ça qui est important, c'est la première recherche. Et c'est donc un moment très important, c'est bien ce que Heidegger dit à propos de l'énergie d'Aristote. Hein. Il dit que c'est le sommet de la pensée d'Aristote. Et il dit que c'est ça qui est plus vénérable dans la pensée d'Aristote. C'est quelque chose de particulièrement important. Que là, de fait, la philosophie touche quelque chose d'utile dans le point de vue de l'art. Donc on comprend très bien que ce n'est pas commun. Alors voyez bien le cheminement de la pensée d'Aristote. Il nous dit d'abord quelques mots sur la méthode. Nous avons connu une méthode inductive, cette méthode inductive est très particulière. Il faut savoir saisir et non pas seulement définir, il faut savoir saisir l'analogue dans une discipline. Donc il nous avertit qu'il ne s'agit pas de vouloir définir là, vous ne pouvez pas mettre dans une boîte là, ça ne se met pas dans une boîte. Ça se saisit par l'intelligence. Et l'intelligence seule peut saisir. Et elle peut saisir dans une vie synoptique, c'est-à-dire toujours dans un certain rapport. Mais comme l'au-delà du rapport, ce qui sous-tend ce rapport. Et alors on donne exprès différentes relations, différents rapports, et les gens, parce que ça c'est facile, les cinq qui saisissent. Alors ce qui est très intéressant pour nous, c'est de voir pourquoi on peut prendre les cinq. En part, c'est simplement par mode d'évidence, c'est pas comme ça. Non, mais nous y reviendrons après, si vous voulez. Je ne veux pas le voir maintenant, je veux le voir après. Pour garder ces cinq qui saisissent, ces cinq rapports qui saisissent, et ces cinq rapports qui saisissent nous permettent de dire là, est déterminé par l'autre partie de ces documents. Donc on saisit là comme ce qui fait l'unité dans cette diversité. C'est là qui fait la diversité, de toutes ces modes particuliers. Et de l'autre côté, c'est possible. Donc nous voyons bien qu'il y a un rapport entre A. Il y a un lien entre les deux, un lien particulier, une relation. Alors, Aristote, après avoir fait cet effort, il donne le tabouillet. Attention. Tout n'est pas dit également en art. Mais d'une manière à l'autre. Il revient. Pour que nous ne confondions pas que dès qu'on s'est dit quelque chose, vous avez bien l'intelligence est un sujet, que dès qu'on s'est dit quelque chose, on lui dit le procédé. Ça, c'est ainsi. Tout de suite, c'est ça qui change, qui fait qu'on ne dit plus bien les choses. On dit le côté des, c'est-à-dire on dit on avait les définitions. Alors, non, on ne peut pas. Lorsqu'il s'agit de là, faisons attention, tout n'est pas saisi de la même manière. C'est saisi d'une manière analogique. Et alors, pour bien nous faire comprendre cette manière analogique, il nous dit que comme ceci est en ceci, ou vers ceci, elle est propre. Donc, comme ceci, et en ceci ou vers ceci. Ainsi, cela est en cela ou dans cela. Commençons un petit peu à comprendre que le rapport, n'est pas le rapport du ceci peut-être double à l'égard de l'autre sans couvert. Si tu prends l'exemple, normalement dans l'exemple, on devrait retrouver dans ses vers. Alors on comprendrait immédiatement ce qu'il veut dire. Alors est-ce qu'il y a une faute? Évidemment, je peux toujours se demander s'il n'y a pas une faute. Parce que si je prends le texte, il est comme ça. Certains vers sont comme le mouvement vers la dynamique, donc comme le mouvement du côté de là, vers la dynamique, la dynamique du côté de la puissance, et de la puissance, et donc comme le mouvement est vers la dynamique, donc comme la puissance, il se rétacle vers une certaine matière. Alors nous dirions assez facilement, comme la puissance est dans la matière. Hein? Et la puissance est plus dans la matière. Alors est-ce que là, il y a une faute, voyez? Je donne le texte et je pose le problème. Vous voyez, dans l'interrogation. Je n'ai pas beaucoup changé de texte. Alors je vais vous le donner et puis dire qu'on pourrait sauter la difficulté. Ou est-ce que de fait, il y a là quelque chose de particulier? Moi, je crois qu'il y a une faute, et que c'est simplement le double rapport de l'acte à l'égard de la dynamique et de l'ouïa par rapport à la matière. Vous voyez ? Alors l'acte, le mouvement propre, c'est-à-dire est relatif à la dynamique. Toujours. Le mouvement comme mouvement, il est acte de cette sensation en tant que dynamique. Donc, il est bien dans cette dépendance. Il est bien propre. Tandis qu'au contraire, l'ouïa se sépare. Le mouvement ne peut jamais se séparer de la dynamique. Impossible. Il n'est que de la dynamique, dans l'ordre réel. On ne peut pas faire la distinction entre les deux. Il implique. Qu'est-ce que c'est que le mouvement? La définition que donne Aristote du mouvement, c'est l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Donc, s'il est l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance, il est propre. Il y a donc un rapport mutuel. Le propre indique un rapport mutuel. Tandis qu'au contraire, lorsque vous direz que l'ouïa est dans la matière, vous n'indiquez pas un rapport mutuel. L'ouïa est dans la matière, donc je peux séparer l'ouïa de la matière. Tandis que je ne peux jamais séparer le mouvement de la dynamique. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. Vous voyez ? C'est ça qu'il veut dire, alors il y a simplement une petite correction à faire. Je veux dire que c'est tout simplement que lorsqu'on saisit le rapport, je résume si vous voulez, pour que ce soit plus net. Lorsqu'on saisit le rapport de l'acte de la puissance, faisons dans l'attention. Certains rapports de la puissance et de l'acte sont des rapports mutuels. Vous ne pouvez pas séparer la gueule. Ils sont impliqués l'un dans l'autre. Et vous ne pouvez pas les séparer. L'exemple, très très net, le mouvement à l'égard de la dynamique. Tandis que dans l'autre cas, l'acte peut se séparer de la distance. Et alors, pour expliquer ce double rapport, parce que c'est vraiment un rapport analogique, pour expliquer ce double rapport, je prends l'expression propre et elle. Elle veut dire temps et l'égard son indépendance. Vous voyez ? Tandis que propre veut dire justement qu'il est vert. Il n'applique pour l'indépendance. Il garde un caractère relatif. Bien qu'il soit premier, il garde un caractère relatif à l'égard de ce qu'il est, à l'égard de ce qu'il a dit. Le mouvement reste toujours relatif à la dynamique. Bien qu'il soit l'acte de la dynamique, et donc l'absence. Il reste toujours propre. Tandis qu'au contraire, l'ouïa est elle par rapport à la matière, parce que l'ouïa peut se séparer de la matière. Alors ça devient très intelligible par rapport à tout l'ensemble de la philosophie d'Aristote. Parce que c'est vraiment ce qu'Aristote essaie de démontrer, que de fait, l'acte a une double dimension. Un acte qui est toujours collé à la puissance, il ne peut pas séparer le mouvement de la dynamique. Et c'est pour ça qu'il dira que d'une certaine manière, le mouvement n'est pas acte, au sens absolu, au sens négatif, que le mouvement n'est pas un train. La modalité particulière de l'acte dans le mouvement n'est pas un principe. Parce qu'il est toujours propre. Tandis qu'au contraire, l'ouïa est vraiment un principe, est vraiment acte comme principe, parce que elle peut se séparer de la matière. Donc là, je crois qu'il y a simplement un petit difficulté. C'est dommage pour un fait aussi important. Mais écoutez. Alors, immédiatement après avoir montré cela, Aristote montre le caractère de l'infini. C'est très curieux là aussi. C'est un particulier. C'est un problème qui a toujours beaucoup traversé. Le problème de l'infini. Vous savez, on comprend très bien que toute la philosophie grecque a commencé par la grande vision de l'infini. Alors, on comprend très bien que le problème de l'infini revient toujours. Pour bien comprendre ce que dit Aristote, il faut se rapporter à la physique. Aristote a étudié très très longuement le problème de l'infini. L'infini et le vide, les gens et les deux problèmes qui sont souvent sous-jacents, mais c'est l'infini qui nous dit pas. Physique, troisième livre de physique, c'est surtout au chapitre 5, 244 A8 et 6. C'est un problème très important, cette question-là. Et alors, la question de l'infini vu au point de vue du métaphysique et au point de vue physique et au point de vue logique, au point de vue mathématique. Alors, ça, c'est toujours la distinction entre l'infini vu sous des différentes perspectives. Alors, voici ce qu'il nous dit, parce que c'est ça que nous regardons. Donc, il va regarder l'infini du point de vue de l'arc et l'infini du côté de la distance. De plus, l'infini, le vide et tous les êtres sans âme sont dits en puissance et en âme d'une autre manière que la plupart des mots. Donc, il y a une modalité particulière de l'arc et de la distance pour l'infini. C'est ça que vous voulez. Là, vous montrez deux grandes modalités, le propre et le vide. Eh bien, il y a quelque chose qui n'entre pas là-dedans. Il vient montrer que les catégories, quand il s'agit de la distance, tout crache. Alors, nous voyons bien le propre de l'air, et puis il y a quelque chose de nouveau, le cas de l'infini. Le cas de l'infini montre qu'il y a quelque chose de particulier. Donc, tous les êtres semblables, en l'infini ici, sont dit en puissance et en âme d'une manière, d'une autre manière que la plupart des vérités, telles que dit qui voit, telles que dit qui marche, telles que dit. Il arrive à celle-ci d'être une fois absolument vrai. Car ce qui est vu exprime qui est vu et qui peut être vu. Tandis que l'être, donc lorsqu'il s'agit de ces réalités-là, on peut préciser l'état d'être en acte et d'être en puissance. C'est quelque chose de bien déterminé. Ce sont deux états différents, l'état d'imperfection, l'état de perfection. Tandis que l'être n'est pas en puissance, de sorte qu'il sera en acte ou pas tout départ. L'infini est toujours irréductible à l'actuel. C'est ça qu'Aristote dit en fait. Il y a du côté d'infini quelque chose qui va jamais être parfaitement actuel. Quelque chose qui réduit. Les autres réalités, on peut la garder dans deux états bien distincts. Être en acte en puissance. Tandis que l'infini n'est pas en puissance de sorte qu'il sera en acte d'une façon séparée. Ni par la connaissance. Donc il va y avoir l'intervention d'intelligence, la connaissance, pour donner un état séparé à la vie, que la vie ne possède pas par lui-même. Donc nous sommes là en face d'un maître dont on peut distinguer le point de vue de la puissance et de l'art que par l'intervention de la connaissance. La connaissance va venir contribuer cet être. C'est-à-dire quelque chose d'analogue à propos du temps. Quand par exemple, dit que le temps est un être qui ne possède pas ça. Par raison que par l'intervention de l'intelligence, puisque le temps est mesure, il est non mesure. Et donc que le temps est parfaitement lui-même que par l'intervention de l'intelligence. C'est l'intelligence qui permet au temps d'être vraiment ce qui est la mesure, d'être le non mesure. C'est toujours ces problèmes-là qui sont les frontières avec le problème de l'IS. C'est parce que c'est donc pour un égard du temps, à l'égard de l'infini, que d'une certaine manière, le réalisme, la position réaliste de c'est-à-dire la réalité telle qu'elle est, montre que là, on ne peut pas. Il faut l'intervention de l'intelligence. L'intelligence doit compléter ces êtres-là pour qu'ils puissent être connus. Ils n'ont pas assez d'êtres, j'allais dire, pour pouvoir être connus par eux-mêmes. Et donc, il y a une complémentarité de l'intelligence. L'intelligence doit les acheter. Quand elle n'est pas comprendre où ils devaient être. Mais bon, l'intelligence doit les acheter. L'intelligence doit apporter quelque chose, doit apporter son concours. Pour que nous puissions comprendre ces êtres alors parallèlement aux autres. Alors, il y a la question du temps, ça c'est très très net, et puis c'est la question de l'infini. Alors, le temps pour le durer, c'est pour que le temps puisse jouer le rôle d'être le nom de la mesure. Ici, l'infini, c'est par rapport à l'acte et à la distance. Donc, tandis que l'infini n'est pas en puissance de sorte qu'il sera en acte d'une façon séparée, mais par la connaissance. Car le fait que la division ne fait pas défaut montre que cet acte à l'être en puissance, non d'une façon séparée. C'est très clair. Évidemment, quand vous regardez la physique, vous comprenez mieux. Parce qu'en physique, il précise un peu plus. Mais ici, il a simplement ce fait, et je crois que c'est l'intérêt de la chose, c'est qu'il nous montre que nous sommes donc en face d'une relation entre acte et puissance qui est d'un type tout à fait différent. L'infini ne peut être en acte que par l'intervention de la connaissance. Donc il faut qu'il soit porté par la connaissance. En lui-même, il est toujours en puissance. Il est divisible à l'infini, c'est l'infini. Il faut toujours diviser. Il n'arrivera jamais au terme. Donc il est ce qui permet la division. Et l'acte ne peut venir que de l'intelligence. Donc l'état de l'infini en acte n'est pas un état, nous dirions, objectif, au sens réaliste. Il n'est pas donné comme un état, il n'est que pensé. L'intelligence peut penser le point de vue de l'infini. Elle peut penser l'infini, en sens qu'elle peut dire que l'infini, c'est justement ce qu'on peut dire, l'infini, qu'on peut dire tout ça. Et là, par là, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de particulier au problème de l'infini. Donc, vous voyez que, après avoir montré la saisie de l'acte et la puissance, Aristote montre tout de suite ses diverses modalités. On peut les résumer à deux essentielles, une troisième comme limitrophe. L'intervention de la connaissance. Grâce à l'intelligence, il y a une possibilité de parler de l'infini dans l'action. C'est seulement cette manière-là. Dans la physique, Aristote dira que seul le mathématicien peut le faire. Et que ça n'a rien d'intérêt que pour les mathématiques. Autrement, on ne pourra pas le faire. C'est vrai, c'est un intérêt pour les mathématiques. Ensuite, Aristote regarde le podium. Il ne nous avertit pas, mais si nous sommes attentifs, ils vont dire que c'est le podium. Après avoir dit le qui est-il de l'art, qu'est-ce qui nous donne le podium ? C'est-à-dire la qualité de l'art. Et là, c'est très curieux que pour essayer de comprendre la qualité de l'art, il va regarder l'action. Nous comprenons, parce que c'est le point de vue justement de l'action qui va nous faire comprendre l'aspect ultime pour nous, au point de vue de l'expérience, de ce que représente l'acte. C'est dans l'action, si vous voulez, que l'acte va, pour nous, être le plus qu'est-être. C'est dans l'action, c'est pas dans la distance. Si dans la distance, il est fondamental, c'est dans l'action qu'il est le plus qu'est-être. Or, quand il s'agit de l'acte, il ne faut pas seulement dire le défi, parce que nous saisissons tellement mal le défi. Alors, il faut dire le projet, il vient nous aider. Nous n'avons pas une saisie qui nous permet de définir l'acte et donc de dire exactement le défi, nous sommes toujours dans un rapport, donc il faut ajouter à des saisies extrêmement faibles et analogiques de l'acte, il faut ajouter le point de vue du podium. Alors c'est ceci, ouais, c'est ce point de vue qu'Aristote développe dans la fin de ce chapitre. Où il nous fait comprendre la différence entre ce que la scolastique appellera ensuite l'acte transitif et l'acte immanent. Mais ici, nous sommes avant la classification. Aristote va ici voir qu'il y a deux types d'actions. Une action qui possède en elle-même son terme, et une action qui ne possède pas en elle-même son terme. L'action qui possède en elle-même son terme, elle possède sa fin. Et donc, possédant sa fin, c'est l'action parfaite. Et c'est là où seuls nous pouvons désirer l'acte d'une façon qualitative. L'action qui possède pas son terme, c'est une action transitive, donc c'est un peu la question. Je reviendrai là-dessus.